Eh bien, bonsoir à tous. Donc, on va commencer déjà par voir ces deux arrêtés qui ont été signés le 2 mars. Mais vous savez qu'un arrêté, il faut non seulement qu'il soit signé, mais surtout, c'est sa date de publication au journal officiel qui déclenche tout, puisque c'est à ce moment-là qu'il est connu de tous. Et donc, cette publication, c'était le 6 mars, donc le samedi 6 mars, parce que le journal officiel... C'est un journal qui sort tous les jours, et y compris le dimanche souvent. Je suppose que c'est pour écluser tous les articles qui n'ont pas, ou les arrêtés qui n'ont pas été publiés et qui sont dans le sens de publication. Et souvent le lundi, c'est justement un jour de repos pour le journal officiel. Voilà. Donc ces deux arrêtés, ils ont été tous les deux signés du 2 mars, et donc tous les deux publiés à la suite dans le journal officiel. Donc pour ceux qui ne croient pas ce que je dis, voici, alors ça c'est les copies d'écran du journal officiel. Donc voilà, donc le premier arrêté, c'est l'arrêté qui modifie l'arrêté du 21 septembre 2000. Le 21 septembre 2000, qui était donc l'arrêté de base, hein, qui a prévu toutes les conditions pour passer l'examen. Voilà, donc un arrêté modificatif. Et un deuxième arrêté qui était très attendu, non pas en France, mais dans les collectivités territoriales d'outre-mer, c'est-à-dire Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, et terres australes et antarctiques françaises. Pourquoi ? C'est que dans ces zones-là, l'ARCEP n'est pas compétente. Et de ce fait, la décision 2012-1241, qui nous est propre, nous, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, eh bien, elle ne s'applique pas. Et donc c'est un arrêté qui s'applique puisque l'ARCEP n'est pas compétente dans ces territoires-là. Et donc cet arrêté, justement, il avait arrêté le temps en 2009, puisqu'il n'avait pas été remis à jour depuis 2009. Donc toutes les bandes qu'on avait acquises depuis 2009, ces territoires-là n'y avaient pas accès. Quand même, on reviendra après, parce qu'on va voir que c'est pas réellement complètement un copier-coller avec l'arrêté, avec la décision ARCEP, la 2012-1241. Voilà, donc, on va commencer par le premier arrêté, c'est celui qui nous intéresse le plus. Ici, je vous ai mis les liens. Alors, ce fichier-là, ce PDF, je le mettrai aussi sur le site internet du Radio Club. Donc, si vous voulez revenir dessus, vous allez avoir tous les éléments pour pouvoir relire ça à tête reposée. Donc, ces deux arrêtés ont été signés tous les deux par Bruno Le Maire et Cédric O. Donc là, je vous les ai mis en photo avec peut-être, les fameux deux arrêtés qu'ils ont sous le bras, on ne sait pas. J'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Donc, ça a été fait le 2 mars. Pour votre information, sur le site de l'ANFR, donc vous tapez ANFR sur votre moteur de recherche préféré et vous allez tomber sur le site de l'ANFR, et dans les actualités, on a cette actualité donc, qui date du 9 mars, donc de la semaine dernière, là, enfin de cette semaine, et qui donc donne un résumé de ces deux arrêtés-là. Donc ça, voilà, si vous voulez aller à l'essentiel, vous avez tout ce dont on va parler juste après. Si ça vous intéresse. Alors, on va commencer à rentrer dans le détail de l'arrêté du 2 mars 2021 qui modifie l'arrêté du 21 septembre 2000. Donc ça, c'est les conditions d'examen, les conditions d'obtention du certificat d'opérateur, donc les conditions d'examen. Alors, premièrement, et ça c'est la question qui taraude tout le monde, c'est quand cela va-t-il entrer en vigueur ? L'article 17 de cet arrêté, il dit « Le présent arrêté entre en vigueur 3 mois après sa publication au Journal officiel de la République française. » En clair, ça a été publié le 6 mars, donc 3 mois après, ça va faire le 7 juin. Et, coup de chance extraordinaire, le 7 juin, c'est un lundi. Voilà. Donc, c'est facile. Le lundi 7 juin, pour ceux qui passeront l'examen à partir du 7 juin, le nouveau système, enfin, tout ce que l'on va voir dans cet arrêté, devra être mis en place. Et donc, toutes les modifications de cet arrêté ne seront effectives qu'à compter du 7 juin. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que, par exemple, le programme de l'examen qui est modifié, on va systématiquement, dès le 7 juin, avoir des questions sur les nouvelles têtes de chapitre. L'ANFR pourrait le faire. J'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Et d'autre part, cet arrêté, mais ça c'est valable pour tout le temps, c'est que là, on précise que l'arrêté est aussi valable dans ces collectivités territoriales un peu particulières, donc la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, les mêmes que dans le deuxième arrêté, hein, parce que ce sont des collectivités territoriales d'outre-mer où quelquefois les arrêtés ne sont pas applicables, et donc il y a des arrêtés spécifiques. Et à chaque fois, on précise si l'arrêté est applicable dans ces territoires ou pas. Voilà, donc ça c'est les 17 et 18, donc il faut aller à la fin de l'arrêté pour les trouver. C'est pas au début, c'est à la fin. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qui va changer? Alors, je vous ai mis ça, parce qu'évidemment, il y a plein d'articles. Alors, quelquefois, il y a des articles qui sont juste de la cosmétique. Par exemple, l'ARCEP, quand on dit ARCEP, en fait, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Enfin, jusqu'à présent. Et depuis à peu près 3 ans maintenant, c'est et de la diffusion de la presse. Donc, un des articles va être de dire, eh bien, dès qu'on va voir et des postes, eh bien, on va ajouter et de la distribution de la presse pour faire l'intégralité de ce que veut dire ARCEP. Voilà. Donc, celui-là, je m'en fous un petit peu. Je ne vous en parle pas. Mais par contre, il y a d'autres articles qui sont intéressants. Et là, je vous ai mis les articles qui me semblent les plus intéressants. Et le premier, c'est celui que tout le monde attend désespérément. C'est l'article 2 qui dit que il y a la suppression du point négatif en cas de mauvaise réponse. Alors, je ne vous donne pas l'article en lui-même parce qu'en fait, il fait référence à l'arrêté du 21 septembre 2000 et il dit juste les mots soit à changer, soit à ajouter. Et si bien que si on n'a pas cet arrêté du 21 septembre 2000, on ne sait pas de quoi on parle. Donc en fait, c'est très compliqué, il faut avoir non seulement l'arrêté du 21 septembre 2000, et à la lecture de cet arrêté, on fait en fait ce que dit l'article 2, et voilà. Alors, concrètement, quand on regarde cet article 2 et quand on applique ça à l'arrêté du 21 septembre 2000, déjà, on dit nulle part qu'on supprime le point négatif. En fait, on reprend la phrase. Et cette phrase, elle est maintenant libellée comme ça. Un point par bonne réponse et zéro si mauvaise réponse ou pas de réponse. Ce qui veut dire que auparavant, c'était 3 points, je rappelle quand même, c'était 3 points moins 1 point si c'était une mauvaise réponse et 0 pour pas de réponse. Maintenant, c'est 1 point par bonne réponse, 0 si on ne répond pas ou si on donne une mauvaise réponse. Ce qui veut dire que la note, maintenant, puisqu'il y a 20 questions, ça n'a pas changé, il y a toujours 20 questions, ces 20 questions... ça va donc donner une note sur 20 maintenant, alors qu'auparavant elle était quand même sur 60, hein, je le rappelle. Donc cette note maintenant, elle est donnée sur 20, donc alors ça change pas, ça change rien du tout, c'est-à-dire qu'il faut toujours obtenir la moyenne, parce que dans le texte, il est écrit qu'il faut pour valider une épreuve, obtenir la moyenne. Auparavant, la moyenne c'était 30 sur 60, maintenant c'est 10 sur 20, mais ça ne change rien. En revanche, ce qu'il va falloir changer, c'est la stratégie pour passer l'examen. Et je dis, je le répète, ce n'est valable qu'à partir du 7 juin. Ça, c'est faut se mettre dans la tête. Et donc, à partir du 7 juin, vous pourrez répondre, alors tant qu'à faire, la bonne réponse, parce que sinon, si vous n'avez pas vos 10 points, bah, c'est mort. Mais si vous ne savez pas la réponse, peut-être mettez-la de côté, mais en tout cas, vous pouvez répondre n'importe quoi, et avec un peu de chance, c'est ce que je disais, avec un peu de chance, si on répond correctement à 7 questions, et au hasard pour le reste, donc les 13 autres, la moyenne obtenue, hein, si on prend le jeu du hasard, donc on fait 7 des points dont on est certain, plus 13 fois un quart, puisque vous avez une chance sur 4 de vous planter, et ben ça fait 10,25. Donc vous avez juste la moyenne. Donc voilà, c'est... Alors c'est un peu... voilà, faut... Si vous avez de la chance, bah voilà, donc... faut vous lever du pied gauche le matin, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais voilà. Donc il y a quand même plus de chances d'obtenir de réussir l'épreuve. Et donc, on devrait avoir un taux de réussite à l'examen un peu meilleur. Voilà. Ça, c'est le point principal. Un point qui est aussi intéressant, important. Auparavant, le certificat d'opérateur, c'était un bout de papier, hein, bête et con. À partir donc du 7 juin 2021, le certificat d'opérateur devra présenter une trame de sécurité. Et donc ça, c'est pour éviter les fraudes. Et donc, notamment, cette trame de sécurité, ça permet, si on fait une photocopie, ça fait ressortir certains du texte, ce qui n'apparaît pas... voilà, et donc ça évite comme ça éventuellement de trafiquer, de maquiller un certificat d'opérateur, et surtout ça ne permet pas de faire des copies. Voilà, bon, il y aura toujours des petits malins qui pourront bricoler ça, mais c'est un peu plus compliqué qu'avec juste le petit document sur papier en tête de la NFR qui n'était même pas signé d'ailleurs, qui était juste un document qui sortait de l'imprimante comme ça. Voilà. Et autre nouveauté, sur la notification de l'indicatif d'appel, on ne rappelle pas votre numéro de certificat d'opérateur. Maintenant, ça sera fait. C'est-à-dire que sur votre notification d'indicatif d'appel, on rappellera le numéro de certificat d'opérateur. On doit être dans les 13 000 par là. Et c'est pas le nombre de radioamateurs, hein, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été remis à zéro, ce truc-là. Mais voilà. On est dans Alors, au niveau des numéros d'examen, on arrive dans les 19 000. Et si ça se trouve, même, on les a dépassés. Enfin, les derniers que j'ai, c'est vraiment la dernière série des 18 000. Et donc ça, c'est le nombre d'examens passés. Et le 13 000, donc, c'est le nombre finalement d'examens réussis, en fait. Hein, quand on fera ça dans l'autre sens, c'est le nombre d'examens réussis, et on voit qu'on fait le ratio 13 000 par 18 000, et on voit bien qu'on arrive à un ratio de 60%, qui était, grosso modo, le ratio habituel jusqu'à présent. Et juste pour votre information, c'est pour ça que je demande aussi le numéro... d'examen quand vous m'envoyez des comptes rendus, c'est que ça me permet comme ça de savoir combien il y a d'examens qui sont passés, et par essayer de, à partir d'un taux de réussite moyen, en déduire le nombre de radioamateurs pendant une période. Parce que ça, ce taux de réussite, il est à peu près constant. Enfin, tout au moins, il était à peu près constant jusqu'à présent. Article 5. Alors, quand même, il y a la suppression des mots relatifs à la taxe radioamateur. Quand même, c'est important. Et en conclusion, en conséquence plutôt, il est indiqué maintenant que les indicatifs personnels et d'association sont attribués pour une année calendaire, donc la première année où on en fait la demande, et sont reconduits tacitement. Donc, vous n'allez recevoir aucun document comme quoi votre certificat d'opérateur, enfin tout au moins votre indicatif d'appel, est à jour. Il est reconduit tacitement. Point barre. Ce qui peut poser des problèmes lorsque vous allez notamment à l'étranger, où on va vous demander de justifier votre indicatif d'appel. Et là, vous n'avez strictement rien qui le justifie, à part demander un duplicata à l'ANFR. C'est tout ce que vous avez comme solution. Et puis, une nouveauté qui là est vraiment assez embêtante, ça concerne les associations de radioclubs, et donc, pour obtenir un indicatif de radioclub, il faut présenter le récépissé de déclaration de l'association. En clair, si votre radioclub n'est pas une association de 1901, donc qui a un récépissé de déclaration à la préfecture, eh bien vous allez avoir quelques problèmes pour demander un indicatif d'appel. Je pense en particulier aux radioclubs d'école, aux radioclubs qui sont liés à des entreprises dans le cadre de CE par exemple, enfin de CSE maintenant. Vous risquez d'avoir des problèmes parce que le radioclub n'est pas monté sous forme association reconnue. Ce ne sont que des associations de fait, et une association de fait, par définition, il n'y a pas de déclaration. Donc voilà. Donc ça c'est l'article 5. L'article 7.1 qui dit quoi ? 1.1.1. Donc les certificats d'opé. Alors les titulaires d'un certificat d'opérateur de type AREC, donc étranger, puisque là on parle de l'article 7.1 qui parle donc des indicatifs d'appel des étrangers quand ils viennent en France pour plus de 3 mois. Donc ceux-là ont droit à un indicatif français, sans pour autant passer l'examen français, à partir du moment où c'est un équivalent AREC, donc un examen passé dans un État qui reconnaît la recommandation AREC, la TR6102. Et donc là, en fait, l'ANFR dit c'est bien de me montrer votre certificat d'opérateur ou votre indicatif d'appel de votre pays d'origine, mais il me faut une preuve que ce certificat est bien un certificat AREC, parce que notamment il y a peut-être des problèmes de traduction, ou quelquefois c'est difficile à savoir ce que c'est. Et donc il y a eu plusieurs la NFR a eu plusieurs problèmes avec ce genre d'opérateur, et du coup maintenant la NFR demande aux demandeurs de réciprocité, donc ce sont ceux qui sont visés, c'est-à-dire les étrangers résident en France pour plus de 3 mois, ils doivent apporter la preuve que leur certificat qu'ils ont passé dans leur pays d'origine est un certificat AREC. Et là, peut-être, ça va poser problème. J'ai l'article 8 qui me dit que l'article 7.3 est maintenant ainsi modifié. Alors ça, c'est un truc intéressant. C'est que on dit, donc dans ce 7.3, on parle notamment de l'intégrité du... Enfin, c'est tous les systèmes de sécurité. Et donc, on a ajouté à cet article ou d'atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du fonctionnement du réseau ouvert au public. Donc ça, ça veut dire que le dernier texte que l'on attendait qu'il soit signé, ce soir j'ai regardé encore au journal officiel, il n'est pas sorti, il n'a pas été publié, et donc c'est un article là, du code de poste et communication électronique qui dit comment qui dit dans quelle mesure on peut connecter une station d'émission, évidemment, à un réseau ouvert au public. On en parlera à la fin de la présentation. Alors aussi, ça c'est dans les sanctions, et dans les sanctions, on dit sans possibilité, après le mot révoqué, donc c'est soit suspendu ou révoqué, et après révoqué, on a ajouté sans possibilité d'attribution ou de réattribution d'un nouvel indicatif personnel. Voilà. Quand on dit que c'est révoqué, c'est définitivement point barre. Et même si on repasse l'examen. Donc ça complète les sanctions, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus en complément. En revanche, l'article 10, là, il y a pas mal, il y a une grosse partie où on va parler notamment des indicatifs spéciaux. Alors l'article 10, il modifie l'article qui parle de l'annuaire des radioamateurs, donc l'annuaire qui est géré par la NFR. Ici, je vous ai mis ici le lien pour aller sur ce site internet. Donc je vais vous montrer Firefox. Il est arrêté, Firefox ? Pourquoi il est arrêté ? Bon. Alors, si ça ne veut pas se lancer, ça y est, c'est parti. Voilà, donc ça, c'est Firefox. Donc, vous voyez ici, vous avez annuaire. Je clique dessus. Et là, vous avez trois pavés, radio amateur, radio club, station répétitrice. Et il y aurait donc un quatrième onglet qui parlerait ici des indicatifs spéciaux. Donc dans ces indicatifs spéciaux, qu'est-ce qu'on va trouver ? Je reviens sur mon PDF. On va trouver quoi ? On va trouver... Alors, ce ne sont les indicatifs spéciaux en cours de validité. C'est-à-dire ceux pour lesquels l'autorisation est encore en vigueur, puisque je rappelle... Les indicatifs spéciaux peuvent être utilisés pendant 6 mois. Hein, c'est 15 jours non consécutifs pendant 6 mois. Et donc, une fois que la dernière date est passée, c'est supprimé. Donc, si vous demandez juste votre indicatif spécial pour une journée, il va apparaître sur le site ANFR pour une journée. Voilà. Et si vous demandez 6 mois parce que vous voulez faire tous les contests, par exemple, pendant 6 mois avec cet indicatif, il va être supprimé à la fin de la dernière date. Et donc, dans ce pavé, vous aurez l'indicatif attribué, ça c'est bon, la période de validité, l'intitulé de l'événement, le nom, le prénom, l'adresse et l'indicatif personnel du radioamateur responsable. Mais vous n'aurez pas les opérateurs qui auront été déclarés au moment de la déclaration. Voilà. Alors, comme je vous disais, c'est bien, mais pas si bien que ça, parce que ça avait été demandé surtout pour les services QSL. puisque quand il y a des QSL, après, il faut savoir vers où les acheminer. Et donc, quelquefois, ce n'est pas marqué. Voilà, on a là les... à partir du moment où on dit on supprime, tout le moins on ne laisse apparaître que pendant la période de validité, ça risque d'être un peu court pour le traitement des QSL. Donc, voilà. Alors, article 14. Et alors ça va vous intéresser aussi, c'est le programme de l'examen. Le programme de l'examen est modifié à la marge, parce qu'il y a juste deux petits alinéas qui changent. Premièrement, dans la partie réglementation, on ne parlera plus de taux d'onde stationnel, mais de rapport d'onde stationnaire. Alors ça ne va rien changer du tout, je vous le dis tout de suite. Pourquoi ? C'est qu'il y a aussi des questions, à l'heure actuelle, sur le ROS, le TOS, et la transformation ROS-TOS, ou TOS-ROS, comme vous voulez, dans les deux sens. Donc, à mon sens, cette modification... Alors, ce qui se passe, c'est que dans le texte AREC, on ne parle pas de taux d'onde stationnaire, on parle de rapport d'onde stationnaire. C'est pour ça que ça a été fait. Mais ne vous attendez pas à ce que, pour autant, toutes les questions qui sont liées ROS-TOS et tout ça, soient... retirer ou modifier. Et donc, ça c'est pour la partie réglementation. Alors il y a juste un truc, c'est que on parle toujours de la résolution 640 qui a été abrogée en 1997. Ça va bientôt faire 25 ans qu'elle a été abrogée, résolution, et que pour autant, dans le texte, elle existe toujours, et toutes les résolutions qui l'ont remplacée à la suite, eh bien évidemment, elles n'existent pas. Voilà. Et heureusement, il n'y a pas trop de questions sur ces nouvelles résolutions, et c'est tant mieux, elles traitent toutes finalement des communications d'urgence en cas de catastrophe. Et enfin, il y a un deuxième point, et ça qui va chatouiller certains, c'est on a rajouté un chapitre qui s'appelle traitement numérique du signal, où on va parler de tout ça, c'est-à-dire de l'échantillonnage et de la quantification, de la démodulation des signaux et des conversions analogiques digitales et digitales analogiques. Donc c'est les fameux ADC et DAC. Et donc on risque d'avoir questions quand je ne sais pas, sous quelle forme je ne sais pas. Voilà, donc faut rester vigilant. Pour continuer dans ce point-là, je rappelle, donc ça c'est l'arrêté modificatif, où on n'a que donc trois têtes de chapitre. Alors juste un truc déjà, ça serait bien que la NFR parle en français, parce que quand on parle de digital, digital c'est un mot anglais. Digital, c'est un mot anglais qui veut dire numérique en français. Et digital, quand on prend le dictionnaire, c'est relatif aux doigts, et absolument pas au numérique. Donc, ça serait quand même bien que l'ANFR parle en français. Ça me ferait beaucoup plaisir. Mais bon, peut-être pas trop exagéré. Voilà, ça c'est mon petit point. Et donc, ça c'est. Donc, je compare ici l'arrêté, donc la modification de l'arrêté, donc la mise à jour. Et quand on regarde la recommandation, la PR6102, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'éléments. C'est-à-dire qu'on a effectivement le chapitre 1.10, mais on a aussi deux petits items ici dans le chapitre des circuits, qui ont été complètement oubliés par nos amis de la DGE, je suppose que c'est la DGE qui a préparé l'arrêté, Voilà. Donc ici, je vous ai mis en bleu ce qui est repris finalement dans notre arrêté, mais nulle part on parle de démodulation des signaux dans la recommandation TR6102, mais on parle d'autres items qui sont quand même, à mon avis, plus importants. Et en tout cas, tous ces items-là, dans le cours, j'en parle. Alors, pour le moment, il y en a une bonne partie qui est en italique, mais voilà. Alors, est-ce que cette démodulation des signaux, ça recouvre finalement tout ça? Je suis pas certain. Voilà. Enfin, encore une fois, la DGE, puisque je pense que c'est eux qui sont derrière cet arrêté, a essayé de noyer le poisson. Les problèmes générés par cet arrêté. Alors, première question, mais ça on verra dans l'avenir, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles questions dans l'épreuve de technique, notamment tous ces traitements numériques du signal, je ne sais pas. Deuxièmement, les sanctions. Il faut savoir que c'est l'arrêté du 21 septembre 2000 dit qu'il y a des sanctions qui peuvent être prises à la demande de certaines administrations, dont l'ANFR. L'ANFR, comme c'est eux qui donnent des indicatifs, je ne vois pas comment elle peut se saisir elle-même pour suspendre ou révoquer un indicatif. Donc, il y a quand même un problème, et je rappelle quand même au passage que c'était ce genre d'absurdité qui avait conduit à l'annulation des décisions ART en 2000. Et qui avait fait que les centres d'examen avaient été arrêtés pendant un an. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un qui veut mettre cet arrêté au Conseil d'État, il va pouvoir réussir à avoir gain de cause. Voilà. C'est un peu dommage. Difficulté, oui, alors ça, les radioclubs qui n'ont pas de statut d'association, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est difficile d'obtenir un indicatif d'appel maintenant. Hein, j'en connais quand même quelques-uns. Et voilà. Alors, autre point qui est un peu gênant, c'est que lors de la... Alors, il faut savoir que déjà, c'était la taxe radioamateur qui permettait de déterminer le nombre de radioamateurs en France. Et la NFR faisait simple. Elle disait bah, combien de gens ont payé leur licence annuelle, enfin leur taxe radioamateur, et à partir de là, bah, ça me donne le nombre de radioamateurs actifs. C'était facile à faire. Avec la suppression de la taxe, bah, il n'y a plus de moyen de compter. Et donc l'ANFR avait dit, on va essayer de trouver un moyen. En fait, le moyen, il n'a pas du tout été trouvé, et l'ANFR s'en contrefond. Si bien que, finalement, on se retrouve avec des radioamateurs qui sont décédés, et pour autant, leurs indicatifs sont toujours actifs, avec évidemment leur dernière adresse connue. Exemple, et ça, je pense que ça se peut, on va en trouver à l'infini comme ça, j'ai pris le carnet du REF des deux dernières années, donc 2019 et 2020, il y a en tout 86 radioamateurs décédés dans ce carnet du REF, j'ai été regardé sur l'annuaire ANFR, et alors là, coup de chance quand même, il y en a pile poil 50%, donc 43, qui figurent encore dans l'ANFR, dans l'annuaire ANFR. Donc c'est quand même assez symptomatique, et donc grosso modo, on fait comme en Corse, on fait voter les morts, enfin ou Paris 5e comme vous voulez, il y a du temps de Tibérie, c'est pareil, et l'ANFR, là, et donc tout le monde se gargarise en voyant le nombre de radioamateurs qui augmente. C'est pas certain qu'il augmente autant que ce qui est indiqué dans les statistiques. Alors, encore une fois, la NFR ne fait le ménage qu'à la demande, soit des gens qui demandent à retirer de leur indicatif, okay, ou lorsque les ayants droit, donc les héritiers, demandent à supprimer l'indicatif. Et visiblement, c'est pas systématique. Il y en a beaucoup aussi qui laissent tomber ça, parce que peut-être qu'il y a les ayants droit qui ne sont pas du tout au courant des démarches à faire de ce côté-là. Voilà. Et puis enfin, ça on en a déjà parlé, puisque la notification indicative est reconduite tacitement. Comment justifier que l'on est en règle vis-à-vis d'une autre administration, alors soit française ou étrangère. Exemple, vous voulez monter votre antenne sur votre toit, il va falloir que vous montriez un document comme quoi vous avez bien un indicatif radioamateur, et si votre indicatif il date de 20 ans, on va vous rire au nez, on va vous demander d'avoir quelque chose de plus récent. Et là, à part encore une fois le duplicata, je ne vois pas d'autre solution pour obtenir ce document. Et de toute façon, je ne voyais pas trop comment on pouvait s'en sortir. Point positif quand même, je suppose que ce nouveau calcul de points, donc la suppression du point négatif, encouragera ceux qui n'osaient pas encore à franchir le pas, voilà, j'espère. Alors, petit bémol quand même, c'est que ce point négatif, du coup, je crains que de quelques pays de la CEPT voient ça d'un mauvais œil, parce que n'oubliez pas que si vous allez par exemple en Belgique, c'est pas la moyenne qu'on vous demande, c'est 14 sur 20. Et donc peut-être que des pays comme la Belgique ou d'autres vont demander à ce que l'ANFR revoie sa copie, parce que c'est pas normal. Enfin, la TR6102, elle est faite pour que tout le monde ait le même niveau. Et si donc la Belgique a un niveau un peu supérieur, il n'y a aucune raison que la France se démarque en donnant, entre guillemets, un certificat d'opérateur. Alors, qu'est-ce qui est évoqué aussi, le fait d'avoir un certificat intermédiaire de premier niveau, classe 3, pour donner possibilité d'accès à la radio. Alors ça, pour le moment, c'est évoqué, mais nulle part, l'administration est consciente du truc. Hein. C'est une demande des associations. Et en tout état de cause, à chaque fois, l'administration, elle fait sourde oreille à ce genre de choses. Donc, elle répond que quand l'ensemble des associations présentera un texte commun, peut-être qu'elle s'en occupera. Et comme je suis certain qu'aucune association ne va vouloir se mettre ensemble pour, de radioamateurs va vouloir se mettre ensemble pour pondre un texte en commun, tout le monde va vouloir son propre texte, et bien on est certain que ça ne va pas avancer. Alors, deuxième point, c'est donc ce fameux arrêté pour les collectivités territoriales d'outre-mer. Donc, c'est un copier-coller, quasiment copier-coller de la décision 2012-241, décision qui est très touffue, puisqu'il y a un préambule qui est très long, qui doit faire 7-8 pages, et des arrêtés qui sont très très courts, ça tient sur une page. Donc, voilà, et donc il y a des informations que vous retrouvez aussi dans le préambule, qui ne sont pas dans l'arrêté, mais qui sont dans le préambule. Donc, j'ai regardé un peu à la loupe ce texte, et il y a trois différences majeures. Alors déjà dans l'article 2, où dans cet arrêté pour les collectivités territoriales d'outre-mer, pour les transmissions d'urgence, donc en cas de catastrophe naturelle, de catastrophe tout court d'ailleurs, le texte de la 2012-241 dit seulement les stations, des stations du service d'amateurs, etc., peuvent transmettre des communications, il y a plein de trucs, après on s'en fout, d'urgence pour les secours en cas de catastrophe. Okay. Ça, c'est la phrase telle qu'elle est dans la décision 12-1241. Et dans cet arrêté, on a rajouté devant à la demande des services d'urgence. Alors, quand on voit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle forme doit prendre cette demande des services d'urgence? Est-ce que c'est les services d'urgence français? Et dans ce cas-là, qui sait? À part le préfet, je ne connais pas d'autres. Et que fait-on donc dans les cas des communications internationales? Parce que là, du coup, qui gère ça, j'en ai aucune idée. Enfin, en tout cas, ce début de phrase, c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà. Article 3. On a rajouté dans les obligations de la station, alors déjà, ne pas brouiller une station, des émissions en cours. Et là, il y a rajouter une phrase au cas où on n'est pas bien compris, ne pas brouiller volontairement des émissions en cours. Là, on est vraiment, on a mis le doigt sur quelque chose. Alors, juste pour information, histoire de rigoler un peu, cette histoire de brouillage volontaire des émissions en cours, vous avez sûrement entendu parler du cas F4-MSY, et qui finalement avait arrêté ses émissions en décembre. Eh bien, on a su un peu plus pourquoi il avait arrêté ses émissions. C'est que l'ANFR et la gendarmerie ont fait un petit... ils ont été chez lui et ils ont piqué tout le matériel et ils l'ont mis en garde à vue et même visiblement, ça va assez loin. Et donc, alors, si vous allez sur le site ANFR, une information qui a été mise à jour tout dernièrement, donc si vous allez dans les actualités, voilà, c'est dans les enquêtes de l'ANFR, fin de partie, un radioamateur menaçant, stoppé net par la saisie de son matériel d'émission. Et donc vous allez là-dessus, lire la suite, et là vous allez voir ce superbe article, qui explique tout ce qui s'est passé, dans quelle mesure ça a été fait, etc., etc., etc. Il y en a assez long à lire, et c'est assez croustillant. Voilà, donc j'aime bien ce genre d'informations, c'est toujours assez drôle. Et je ne suis pas passé sur Firefox, ce que j'aurais dû. Voilà, donc si vous voulez, il y a tout cet article-là, ici, sur Firefox, qui explique cette enquête. Et finalement, quand on regarde bien ce texte, je vais revenir sur le PDF, quand on regarde bien cet article, on s'aperçoit qu'on ne s'est absolument pas servi des sanctions qui sont prévues à la décision de l'arrêté du 21 septembre 2000. On n'a pas du tout utilisé ça. On a utilisé, l'ANFR a utilisé la déclaration PAR. Parce que ce brave type, F4-MSY, comme il emmerde tout le monde, il n'avait même pas fait sa déclaration PAR. Et donc c'est à cause de cela que l'ANFR a confisqué son matériel, etc. etc. Donc voilà. Et en tout cas, c'est surtout pas en utilisant les sanctions de révocation et de suspension de l'indicatif d'appel. Voilà. Et non plus en passant par un juge. C'était quand même c'est assez spécial. Et enfin, troisième point, utilisation d'une station connectée à Internet. Et donc là, encore une fois, on parle puisque là, maintenant, les stations dans les CTOM, donc les collectivités territoriales d'outre-mer, peuvent se connecter à un réseau ouvert au public à partir du moment, évidemment, où ça sera autorisé, où le 99.4 sera publié, et donc on va être sur un pied d'égalité sur les deux sur les deux réglementations. Voilà. Quoi dire ? Ah oui. C'est ce que je disais en introduction, c'est que cet arrêté arrive à point nommé, puisque le temps s'était arrêté en 2009 et que toutes les nouvelles bandes elles n'étaient pas autorisées aux radioamateurs de ces collectivités territoriales, ce qui est un peu gênant. Voilà, ma question, c'est qui a parlé d'égalité de traitement de tous les citoyens français ? Voilà, c'est ma petite blague, ma petite blagounette. Et ce que nous attendons encore une fois, c'est cette fameuse publication de l'article D99.4 que je vous ai mis. Alors ça, c'est le texte qui était, communiqué en octobre 2020, et qui a été communiqué auparavant en 2018, mais pour autant toujours pas suivi de fait. Maintenant, on va espérer que ça arrive. En fait, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public lorsqu'on y est connecté. Voilà. Et donc, dès que on voit qu'il y a des problèmes d'intégrité et de sécurité, eh bien évidemment, il faut couper la connexion. Voilà. Donc ça, c'est première chose qu'on attend, et je pense qu'on va l'avoir très rapidement maintenant. Et puis, la deuxième chose qu'on attend, mais ça va faire 10 ans bientôt, donc depuis 2012, la création, enfin tout au moins la recréation, ou la un nouveau certificat d'opérateur de type tant qu'à faire, de type novice AREC, pour pouvoir voyager dans tous les autres pays de la CEPT. Mais voilà. Ça permettrait qu'il y ait une progression possible dans les classes d'opérateurs. Alors après, le tout, c'est de savoir quelle bande on leur attribue et quelle fréquence on leur attribue. Mais bon, déjà, première étape, c'est convaincre l'administration qu'il y a urgence à remettre en place ce certificat d'opérateur. Mais je crains que ce soit long à obtenir, malheureusement. On a déjà mis 3 ans à obtenir la modification qu'on a vue avant, et je pense que c'est quelque part, c'est la CEPT qui a un peu poussé la DGE à revoir sa copie, notamment sur le programme. Donc voilà. Du coup, j'ai mis à jour le cours. Donc, même lien pour le télécharger. Donc, ça n'a pas changé. Ça a été mis à jour hier. Il n'y a pas d'urgence. C'est à jour aussi sur la version en ligne. Donc ceux qui utilisent examen le bouton cours pour voir qui tombe sur le cours en ligne, ça c'est à jour aussi. En revanche, ce qui n'est pas fait, c'est les stocks pour les vendre sur Internet, puisque tous ceux qui imprimaient le cours sur leur lieu de travail, puisque c'était un peu du coulage, entre guillemets, on est tous en télétravail, donc c'est difficile de faire du coulage à distance. Tant qu'on est en télétravail, je crains que la vente ne soit pas possible sur Internet, mais en tout cas, c'est disponible auprès du service fourniture du REF, et je me suis enquéri auprès d'eux. Et normalement, ils ne doivent pas poser de problème. Normalement, la boutique est réservée aux membres du REF. Et si vous leur passez un coup de fil, ils doivent vous vendre le cours. Et j'ai envoyé donc la version PDF vendredi. Donc voilà. Jeudi, hier. Donc normalement, ils doivent l'avoir, ou tout au moins, ils vont l'avoir très prochainement.